Alors, ce texte est un texte d'André Tévec qui est issu d'un ouvrage qui s'appelle Les singularités de la France antarctique, autrement nommé Amérique. C'est un texte de la Renaissance, c'est-à-dire du XVIe siècle, qui fait suite à la découverte du Nouveau Monde par l'Occident. Dans ce texte, on va prendre connaissance d'un mythe, à savoir le mythe des Amazones, qui est transposé ici aux Indiens d'Amérique, plus particulièrement à une tribu d'Indiens d'Amérique du Brésil. André Tévec fait en effet partie d'une expédition française de protestants, on appelle à l'époque des réformés, qui veulent établir une colonie au Brésil. C'est ce qu'on va appeler cette petite région du Brésil, la France antarctique, et ça ne va pas avoir beaucoup de succès puisque c'est une région qui va disparaître. Ce texte est donc à la fois, se présente comme didactique, c'est-à-dire qu'il est censé apprendre quelque chose au lecteur, et en même temps comme fictionnel, car en réalité, il n'y a pas d'Amazone à proprement parler sur ces terres. Et dans l'ensemble, c'est un texte qui se rattache au genre de la littérature de voyage, puisque au récit de voyage, puisque Les singularités de la France antarctique, c'est un texte qu'a écrit André Tévec pour ses compatriotes français qui n'avaient pas eu, eux, la chance de découvrir le Nouveau Monde. C'est un texte qui se divise en trois parties, qui sont ici délimitées par les trois paragraphes. Dans la première partie, l'auteur affirme l'existence de ces Amazones, contre toute intuition. Dans une deuxième partie, il va décrire leur mode de vie, et dans une troisième partie, il s'attache davantage à leur manière de se battre, de mener bataille. La problématique qu'on peut examiner à propos de ce texte, c'est comment est-ce qu'André Tévec arrive à maintenir l'idée que ces Amazones sont réelles, alors qu'en réalité, elles sont purement fictionnelles, c'est-à-dire comment est-ce qu'il mêle fiction et prétention scientifique dans un texte qui est un récit de voyage. Dans une première partie, on observe que l'auteur s'engage, c'est-à-dire il commence par une phrase à la troisième personne du pluriel avec ses espagnols en sujet, et il mène un récit au passé simple, avec fir, arrivèrent, il se trouva, qui semble ouvrir le récit comme étant un récit au passé traditionnel. Mais il s'engage puisqu'il va utiliser quant à moi à la ligne 1, 2, 3, 4, quant à moi je les crois-t-elle, donc il y a une émergence de la première personne du singulier qui montre ici que l'auteur prend position, puisqu'il associe à ces marques de la première personne du singulier l'idée de croyance avec le verbe croire, je les crois-t-elle. Et en cela, il se distingue d'un groupe qui est désigné par quelques-uns. Quelques-uns pourraient dire que ce ne sont des Amazones. Donc il s'oppose à ce groupe qui conteste l'existence de ces femmes sur la terre du Brésil. Et pourquoi est-ce que ces hommes contestent cette existence? C'est parce que, il le dit plus haut, les historiographes n'en ont fait aucune mention. Alors il faut peut-être rappeler à la fois ce que sont les Amazones et les historiographes. Les historiographes, ce sont les hommes qui écrivent l'histoire. Graph vient de graphène en grec qui veut dire écrire, et historio de l'histoire. Et donc ce sont ceux qui livrent à la fois les récits de découverte des autres contrées et puis des histoires des siècles passés. Donc on n'eut jamais cru parce que les historiographes n'en ont fait aucune mention, faute d'avoir eu la connaissance de ces pays récemment trouvés. Donc ces historiographes, ils sont associés plutôt au passé et s'y opposent l'expérience présente, expérience de la découverte des Amazones qui est attribuée aux Espagnols, les Espagnols étant parmi les premiers découvreurs, premiers explorateurs du Nouveau Monde avec les Portugais. Et là, ici, ce sont les Espagnols qui sont supposés avoir rencontré les Amazones. Et donc la manière dont André Tévec va justifier cette identification des Amazones, c'est qu'elles vivent, je cite, « tout ainsi que nous trouvons avoir vécu les Amazones de l'Asie », les Amazones de l'Asie désignant cette fois-ci les Amazones antiques. Alors peut-être un rappel sur ces Amazones, ce sont des créatures légendaires, créatures mythologiques, enfin créatures, même plutôt femmes mythologiques, puisqu'il s'agit d'un groupe de femmes guerrières qui vivaient seulement entre femmes et qui livraient bataille contre les autres peuples et qui gardaient leur aspect uniquement féminin par le fait de tuer leur enfant mâle ou de l'abandonner et de ne se reproduire qu'une fois dans l'année, un peu à manière d'animaux en fait, en excluant ensuite les géniteurs de leur groupe. Et la légende veut aussi, enfin le mythe veut aussi qu'elle se coupait les seins, enfin un des seins, le sein droit en général, pour pouvoir mieux tirer à l'arc. Donc on a quand même un portrait de femme sous-entendu par la mention les Amazones de l'Asie, qui suppose aussi de la part du lecteur une bonne connaissance de l'Antiquité, ce qui est tout à fait probable à la Renaissance, en un temps où l'humanisme remet au goût du jour, si jamais on l'avait perdu en tout cas, les mythes de l'Antiquité grecque et latine. Donc dans un deuxième temps, dans un deuxième paragraphe, l'auteur va décrire le mode de vie de ces femmes qui va valoir ici démonstration, preuve de la présence effective d'Amazones au Brésil. Alors, il indique tout d'abord qu'il y a une séparation entre les femmes et les hommes et qu'il y a aussi, comme les Amazones antiques, une fréquentation des hommes par les femmes de manière très ponctuelle et très limitée. Donc on a ici avec l'adverbe « rarement », puis « quelquefois », on a aussi le couple prépositionnel « en secret » avec un complément circonstanciel ici de « manière », associé à un complément circonstanciel de temps « la nuit », qui est un autre et à un autre complément circonstanciel de temps « à quelque autre heure déterminée ». On aborde beaucoup de mentions sur la non-mixité, sur la séparation entre les hommes et les femmes. Ensuite arrive davantage de mentions de lieux, avec « petite logette » et « caverne contre les rochers », qui est aussi « COD » du verbe « habiter », contre les rochers étant complément circonstanciel de lieu. S'y ajoutent des indications sur leur manière de s'alimenter, sur leur régime, vivant de poissons et quelques sauvagines, racines, quelques fruits. Bon là, c'est pas particulièrement spécifique aux Amazones antiques tout de même. En revanche, on arrive à quelque chose d'un peu plus significatif avec « elles tuent leurs enfants mâles ». On repère ici le présent de vérité, enfin qui est entre le présent de vérité générale où on aura une définition des Amazones et aussi un présent d'énonciation puisque c'est censé décrire les femmes indiennes qui sont associées aux Amazones. Donc elles tuent les enfants mâles immédiatement après les avoir mis en terre, ou elles le remettent à celui à qui elles pensent qu'il appartient. Donc on a exactement ce qui fait le cœur en fait de la légende des Amazones, à savoir la distinction des garçons et des filles à la naissance. Et d'ailleurs ce critère est ramené par une analogie, plutôt par une comparaison à ces Amazones antiques avec tout ainsi que faisaient les premières Amazones, donc ici la propulsion subordonnée. Qui introduit une comparaison, ou plutôt une identification. Mais cette fois-ci, le passé, le temps du passé, qui est l'imparfait de l'indicatif, revient avec « faisait ». Enfin, dans une dernière partie, l'auteur va décrire les mœurs guerrières des Amazones. Le mot « guerre » apparaît d'ailleurs comme le troisième de cette partie, « elles font guerre », puisque c'est en effet un élément fondamental de la définition des Amazones. Alors, il y a cette idée que ces Amazones sont seules contre toutes, elles font guerre ordinairement contre quelque autre nation, et s'y associe l'idée d'une sauvagerie, d'une barbarie qui est déjà associée aux Indiens dans la littérature du temps. C'est un pensif contre lequel va s'élever d'ailleurs Montaigne dans Des Cannibales. Et on voit ici que les Amazones sont, enfin les Indiennes, considérées comme des Amazones, sont présentées comme inhumaines, avec l'adverbe inhumainement, qui est redoublé, dont l'intensité est soulignée par l'adverbe fort, fort inhumainement. Et on a une description des sévices qu'elles leur font subir, comme on avait déjà une telle description chez Montaigne. Pour les faire mourir, elles les pendent par une jambe à quelque autre branche d'un arbre. Après l'avoir laissé ainsi qu'à l'espace de temps, quand elles y retournent, si par hasard il n'est pas très passé, elles tireront 10 000 coups de flèche. On a exactement la même chose finalement que chez Montaigne, avec à la fois une exposition du corps du prisonnier et ensuite l'utilisation de flèches. Alors dans le cas de Montaigne, il s'agissait de décrire la torture que les Portugais faisaient subir aux Indiens. Cette fois-ci, c'est la torture que font subir les supposés Amazones à leurs ennemis. Et alors, on arrive aussi à ce point qui est celui du cannibalisme, comme chez Montaigne, avec « elle ne les mange comme les autres sauvages, mais le passe par le feu, si bien qu'il est réduit en cendres ». Donc, elles ne sont pas cannibales, mais elles sont quand même barbares dans leur utilisation du feu pour tuer. En fait, au lieu d'atténuer la barbarie, on pourrait avoir cette impression-là avec le début de la phrase « elle ne le mange comme les autres sauvages », en fait, l'accentue, parce qu'elle le passe par le feu, c'est quand même tout aussi abominable, sinon plus. Et on a cette comparaison, comme les autres sauvages, qui met bien les Amazones en question, ou les supposées Amazones en question, sur le même rang de barbarie que les autres Indiens, tels que les présentent les récits de voyage, et d'autres passages du récit de voyage d'André Thévet. Pour finir, la phrase qui clôt ce passage ajoute un côté bestial à ces femmes, il les animalise en indiquant qu'elles jettent des cris pour épouvanter leurs ennemis, donc dans une démarche qui est plutôt animale qu'humaine. Il s'agit d'un combat qui ne semble pas respecter de règles comme il est d'usage en Occident à l'époque. Les combats sont rangés, il y a des règles à respecter, des armes qu'on a le droit ou qu'on n'a pas le droit d'utiliser. On est ici face plutôt à une espèce de lutte entre animaux. Et donc, par cette manière de décrire le combat de ces femmes, l'auteur les tire du côté de la bestialité plutôt que du côté de la civilisation. En conclusion, on peut indiquer donc que dans ce texte, André Thévet donne une image à la fois très fictionnelle, très légendaire des indiennes dont il traite, et en même temps très noire, c'est-à-dire on sent qu'il y a une exagération forte, ne serait-ce qu'à travers l'animalisation de ces femmes dans la fin du texte. Et il y a en même temps une prétention à la scientificité, puisqu'il utilise la mention des, enfin il fait mention des historiographes, se prête à une description de leur mode de vie qui se fait au présent, comme s'il s'agissait d'un présent de vérité générale, et il semble présenter des informations factuelles et précises. Il s'avère que ces informations sont fausses et que nous sommes en réalité face à ce qu'on appellerait aujourd'hui une fake news. Les femmes en question ne sont pas du tout des Amazones, elles n'ont pas du tout le même mode de vie, ce qui rend ce texte d'autant plus intéressant et saugrenu, et singulier d'ailleurs, hein, par ironie, si on relit le titre « Les singularités de la France antarctique ». Finalement, ces singularités sont peut-être plus celles de l'auteur que celles de ce qu'il décrit, et on pourrait finir en indiquant que, contrairement à Montaigne, André Thévet dresse un portrait à charge des Indiens qui contribuera à diffuser l'image de sauvages et de personnes qui sont peut-être moins qu'humains, plutôt du côté de l'animal que de l'humain, ce qui aboutira à la controverse de Valladolid en Espagne pour déterminer si les Indiens ont une âme.